Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Dernier volet donc consacré à la fabrique du divertissement cette semaine, après l'infotainment dans les talk-shows américains lundi, le karaoké comme phénomène social mardi et puis hier les parcs d'attractions des États-Unis à la Chine, nous l'avons vu politiquement, socialement, économiquement, le divertissement est une chose sérieuse aussi, quoi de plus naturel que de clore cette série thématique avec l'une des sensations de ces dernières années, les serious games, les jeux sérieux en français, une formule qui sonne comme un oxymore et pourtant, à l'école, on le prise de plus en plus pour apprendre en s'amusant.
Beaucoup de gens pensent, il y a des millions et des millions de gens qui adorent les jeux vidéo. Si nous pouvons capter cette audience en développant un jeu au contenu sérieux, nous pourrons alors aider les gens à apprendre. Je pense que c'était ça l'idée de départ. Avec l'arrivée des médias interactifs, certaines formes d'éducation à l'ancienne, avec les manuels scolaires, sont devenues obsolètes. Les jeux ont le pouvoir incroyable d'intéresser les gens à de nombreux sujets.
Le jeu vous permet d'apprendre en pratiquant. Je peux essayer d'avoir un dialogue intelligent avec le client, mais je peux aussi simuler ce qui se passe si j'ai adopté la mauvaise attitude. Dans ce cas, les ventes risquent de plonger, mais la critique fournie par le jeu m'expliquera pourquoi j'ai échoué et m'encouragera à réessayer.
Si les serious games, les jeux sérieux en français ne sont pas nouveaux, la formule apparaît d'ailleurs en Italie, dans l'Italie humaniste du 15e siècle, les perspectives du marché mondial du serious game sont très encourageantes. En effet, plusieurs études indiquent qu'il devrait connaître un taux de croissance annuel de plus de 15% dans les prochaines années. Un récent rapport d'ailleurs évoque même une croissance de 16% d'ici 2020, avec un chiffre d'affaires total qui atteindrait alors les 5 milliards d'euros. D'autres rapports sont encore plus optimistes. S'ils touchent à de nombreux domaines, c'est dans celui de l'éducation qu'ils s'imposent progressivement. Les enseignants sont de plus en plus nombreux à les intégrer dans leurs pratiques pédagogiques. Alors comment comprendre cet engouement pour le serious game? En quoi peut-il aider dans les processus d'apprentissage? Quels sont les effets de son utilisation et son potentiel pédagogique? Et d'ailleurs, qu'appelle-t-on précisément serious game? Et au-delà de l'école, les serious games progressent dans tous les champs de l'information. On les a vus se multiplier ces derniers mois, en particulier autour des récentes campagnes, la présidentielle en France mais aussi aux États-Unis. Outre-Atlantique par exemple, le Washington Post avait développé une parodie de jeu mobile, du jeu mobile Flappy Bird avec Donald Trump et Hillary Clinton. Ici en France, on se souvient du jeu dont Jean-Luc Mélenchon était le héros et dans lequel le candidat poursuivait les récalcitrants à l'impôt, les détroussant pour participer à l'effort national et au rééquilibrage de la redistribution des richesses. Le président Macron avait lui aussi eu le droit à son jeu vidéo, son jeu pour smartphone, En marche vers l'Elysée. Alors quels sont les effets de ce type de jeu? Dans quelle mesure permet-il de diffuser des idées politiques et plus généralement de sensibiliser l'opinion sur les défis de nos démocraties en crise? Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité plusieurs personnes. D'abord ici avec nous à Paris en studio, Catherine O'Neill. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conceptrice de jeux vidéo, vous êtes d'origine australienne, vous êtes docteur en game design et puis vous êtes auteur d'un serious game qui s'appelle Escape from Woomera, qui remonte maintenant, c'était vraiment les tout débuts, c'était en 2003. Woomera, du nom de ce centre de détention pour migrants en Australie, il est considéré comme l'un des jeux vidéo au contenu politique les plus importants. C'était en tout cas l'avis de la chaîne australienne ABC, alors que pourtant il ne verra jamais le jour, mais on en parlera tout à l'heure. D'abord, on va se tourner vers un autre invité pour évoquer la question de l'école. Julien Alvarez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en duplex. Vous êtes professeur associé à l'Université de Valenciennes, chercheur au laboratoire de Visu, mais aussi au Lacer Numérique à Valenciennes, qui est un lieu, vous me disiez, qui est dédié au numérique, qui mélange des chercheurs, des entreprises. C'est bien ça, hein?
Tout à fait. Donc, c'est une entité portée par la Chambre de commerce du Grand Hainaut et on a pour vocation de faire une fertilisation croisée, c'est-à-dire amener des scolaires, des entreprises et des chercheurs à se rencontrer pour innover ensemble.
Et puis vous êtes co-auteur avec Damien Djaouti et Olivier Rampenou de Apprendre avec les Serious Games point d'interrogation qui était paru l'année dernière aux éditions Canopée. Vous entamez d'ailleurs l'introduction de votre ouvrage avec une considération qui est un peu contre-intuitive et qui pourtant était extrêmement importante. Le jeu, c'est sérieux. Il suffit de regarder combien les enfants s'impliquent dans leur jeu, à l'école, à la maison, pour réaliser qu'en fait, il s'agit d'une activité extrêmement importante pour eux. Finalement, ce jeu, il est central dans la fonction de l'apprentissage, Julien Alvarez.
Tout à fait. C'est-à-dire que si on regarde même du côté de certains types d'animaux, les mammifères, mais pas que, on peut s'apercevoir qu'en fait, les humains ne sont pas les seuls êtres à jouer. Donc ça veut dire que au cours de l'évolution, en fait, si le jeu a été préservé, c'est qu'il doit remplir une fonction qui est importante.
Et sinon, importante dans l'apprentissage en particulier. Et alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que ces sciences de l'éducation, elles ont intégré depuis très longtemps cet enjeu de faire entrer le jeu dans la classe pour améliorer l'apprentissage. Et en même temps, vous dites que vous êtes frappé par le manque de constance dans cette réflexion. On a l'impression finalement de redécouvrir régulièrement ce qui constitue pourtant un phénomène parfaitement su, parfaitement connu. Pourquoi cette forme d'amnésie régulière sur la place du jeu dans la pédagogie ?
C'est une question qui est complexe, mais c'est vrai que pour beaucoup d'acteurs, le jeu peut être une source de loisir, de divertissement, et donc ce n'est pas productif, ça s'opposerait au travail. Par exemple, au début des années 1900, quand on voit les travaux de Montessori et Freinet, ce qui est frappant, c'est que toutes les approches qu'ils mettent en avant, qui sont assez ludiques, parfois, sont quand même considérés comme n'étant pas du jeu. C'est défendu par ces auteurs en disant le journal de la classe, ce n'est pas du jeu, ou les approches de Montessori, ce n'est pas du jeu. Alors pourquoi cette défense ? C'est tout simplement parce qu'on est à cette époque-là dans un contexte où la productivité est importante, on est dans une ère industrielle, et le jeu s'oppose à cette idée-là. Donc, pour défendre leur pédagogie, ils doivent essayer de se dédouaner et contourner en disant que leur approche pédagogiques ne sont pas du jeu. Et puis on peut dire que on est encore dans cette mouvance avec le jeu vidéo au début des années 2000. Et quand on parle de serious game à cette époque-là, c'est pour essayer d'introduire notamment le jeu vidéo à cette époque comme étant un moyen de former, d'apprendre, d'entraîner au sein de différents écosystèmes qui sont les hôpitaux, les écoles, les secteurs de la défense, etc. Mmh. Donc il y a toujours cette volonté de défendre finalement l'utilisation du jeu. Et pourtant, quand on se tourne vers le passé, on voit que depuis l'Antiquité, par exemple chez les Grecs, le jeu était un moyen d'apprendre. Donc il y a en fait des périodes dans l'histoire où le jeu est banni parce que ça s'oppose à certaines valeurs. Par exemple, durant le Moyen-Âge, le jeu était écarté parce que ça s'opposait à certaines valeurs que prenait l'Église. Notamment les jeux d'argent qui étaient très mal vus, et donc on concevait mal qu'on puisse jouer. C'était extrêmement néfaste pour la société. Donc, on rejetait cette forme de loisir. Et c'est pour ça que le jeu se jouait donc en catimini, en cachette.
Et pourtant, le jeu est l'occupation la plus sérieuse de l'enfant, la plus frivole étant l'éducation. Ça, c'est un mot d'Albert Brie, qui est un sociologue canadien, et c'est une phrase qui est en exergue de votre livre. Essayons de commencer peut-être avec une définition, Julien Alvarez. Vous rappelez celle qui est proposée, qui a été introduite il y a une dizaine d'années maintenant par deux concepteurs de jeux vidéo, Chen et Michael. Tout jeu dont finalité première est autre que le simple divertissement. Donc c'est une définition extrêmement large. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler dans quel contexte émerge justement ce concept de serious games, qu'il recouvre très concrètement, et puis nous proposer votre propre définition, parce que vous en proposez une qui se résume par cette mise en relation qui serait les serious games, ce serait le scénario utilitaire plus le jeu, et en l'occurrence vidéo. Sur la question définitionnelle, Julien Alvarez.
Oui, de manière très simple. Un serious game, c'est l'idée effectivement d'associer du jeu avec une finalité qui va être utilitaire, comme nous l'apprend par exemple Étienne Armand Amato. Donc en fait, les fonctions utilitaires peuvent être la diffusion de messages précis, ou proposer des entraînements, ou encore permettre ce qu'on appelle la collecte de données, c'est-à-dire que les joueurs peuvent être mis à contribution pour remplir des fonctions, trouver des solutions par exemple à des choses extrêmement complexes, comme par exemple le pliage de protéines, et qui peuvent faire comme ça par jeux collectifs, avancer la recherche dans ces domaines un peu ardus. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'il existe aussi des jeux qu'on classifie dans le domaine du divertissement, qui peuvent aussi proposer des fonctions utilitaires. Par exemple, si vous jouez à des jeux comme GTA, vous avez dedans certains types de messages qui peuvent être une satire de notre société. Vous pouvez en trouver aussi dans Red Dead Redemption, qui est un jeu qui se passe au temps du Far West, où on pouvait dénoncer le manque de politique pour aider l'intégration de personnes qui étaient hors la loi, qui ont essayé de se repentir. Pour autant, il s'agit de jeux qu'on va dissocier du monde du serious game. Pourquoi ? Parce que le marché qui est visé est différent dans le cadre du serious game. Dans le cadre du serious game, on va s'adresser aux écoles, on va s'adresser au domaine politique, à la communication, etc.
Oui, c'est pas donc parce qu'on peut apprendre des choses dans des jeux qu'ils sont nécessairement qu'on peut les introduire à l'école. Alors, il y a plusieurs types de serious game, vous nous le dites. L'un des modèles se caractérise par ce qu'on appelle une approche extrinsèque, c'est-à-dire avec des séquences ludiques et sérieuses qui sont clairement distinctes. Mais ce type de jeu, il montre ses limites visiblement. L'expérience nous montre que assez rapidement, l'aspect ludique l'emporte sur le reste. L'autre approche, peut-être plus intéressante, consiste précisément à mélanger les deux. C'est cette approche dite intrinsèque où finalement ce que vous expliquez c'est que les bons serious games sont ceux où on met la réussite du joueur, de l'apprenant, où cette réussite finalement découle de sa compréhension du contenu dit sérieux. C'est ça un bon jeu.
Oui. Oui, alors de manière très simple, juste pour revenir à une chose, c'est le jeu sous toutes ses formes peut être introduit à l'école. Il n'est pas question de dire qu'il y a des jeux qui peuvent entrer et d'autres pas. C'est juste que dans le cadre du serious game, on va dire qu'on va essayer, lors de la phase de conception, de pointer un type d'apprentissage qu'on veut atteindre. Alors qu'avec du jeu, on peut apprendre plein de choses, mais on maîtrise pas forcément ce qu'on va apprendre. Ce qu'on appelle des apprentissages informels. Maintenant, pour ce qu'on appelle les aspects intrinsèques et extrinsèques, c'est très simple à comprendre. En fait, quand on est dans une approche qui est extrinsèque, on a cloisonné, si vous voulez, la partie ludique et la partie sérieuse. Par exemple, je joue à un jeu comme Techno City. Vous avez une première phase où vous avez des séquences de jeu. Le jeu va s'arrêter. On va vous proposer une vidéo qui présente des métiers, et c'est là que le serious game est censé être sérieux. Mais en fait, quand on cloisonne comme ça la partie ludique et la partie sérieuse, on risque de perdre le participant ou le joueur qui va se détourner de la vidéo, attendre patiemment que cette vidéo se passe comme si c'était un spot publicitaire.
Pour retrouver la séquence ludique.
Voilà. Ouais. Alors que quand on est dans une phase intrinsèque, l'idée c'est que quand on est dans un jeu de type intrinsèque, l'idée c'est de combiner les deux. C'est-à-dire qu'on a un habile mélange entre le jeu et les dimensions utilitaires qu'on va convoquer pour pouvoir avancer dans le jeu. Et en fait, on a réussi si, pour gagner dans le jeu, on a justement convoqué ce dont on avait besoin comme apprentissage pour gagner. Voilà, donc c'est par exemple des jeux qui vont vous inviter à essayer de solutionner des problèmes pour prévenir l'arrivée de tsunamis. Donc stop, halt aux catastrophes par exemple. Donc dans ce jeu-là, vous êtes amené à préparer des berges, pousser les habitations au loin, mettre des barrages naturels. Et si vous avez bien fait votre travail, vous avez un minimum de dégâts. Et là, on voit très bien qu'il y a une corrélation forte entre ce qu'on essaye d'enseigner et le jeu.
Alors, on va voir dans quelques instants, justement, ce que l'industrie du jeu propose en matière de serious game. Mais d'abord, intéressons-nous peut-être aux avantages, justement, de ces jeux-là. Il y a un certain nombre d'études qui ont été menées pour déterminer les avantages pédagogiques de ces serious games en classe. Que disent précisément ces études, Julien Alvarez?
Alors, au niveau des études, pour le moment, en tant que chercheur, on doit dire que c'est beaucoup d'études de cas qui sont remontées. C'est-à-dire beaucoup d'enseignants qui voient sur le terrain des effets positifs de l'utilisation du jeu. Par contre, ce qui est difficile à trouver comme étude, c'est des études qui vont nous dire, avec un même serious game dans différentes écoles, dans différentes classes à travers le monde, on identifie des résultats qui sont à peu près identiques. Alors ça va se mettre en place, c'est ce qu'on appelle des études multicentriques, et qui nous permettent d'éviter ce qu'on appelle les effets de bord, en disant, l'enseignant en question qui a mis en place un serious game, il a tout intérêt à dire que son jeu, il marche très très bien, parce que dire l'inverse, ça serait se tirer une balle dans le pied. Donc, il faut mettre en place ces études-là. Néanmoins, on s'aperçoit aussi d'une autre chose, c'est que les études qu'on mène, souvent, elles sont centrées sur le jeu lui-même, c'est-à-dire, est-ce que le jeu, il est bon ou il est pas bon ? Or, c'est pas très intéressant de s'intéresser uniquement au dispositif, parce que, comme nous l'explique Jacques Henriot, qui est un philosophe, le jeu, c'est aussi associer le joueur. Et c'est à partir du moment où on a un sujet qu'on a le jeu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de mener des études qui englobent à la fois le joueur et le dispositif de jeu. Mais c'est pas suffisant encore. Il va falloir prendre en compte d'autres dimensions qui sont, par exemple, le contexte. Si vous jouez à la maison ou si vous jouez en classe, c'est pas la même chose. Vous aurez pas forcément les mêmes résultats après l'utilisation d'un serious game. Ensuite, il y a aussi le phénomène de groupe, c'est-à-dire si vous êtes tout seul dans votre maison ou si vous êtes avec d'autres apprenants, vous allez avoir une réception du jeu qui va être différente. Si vous jouez avec quelqu'un, il va peut-être vous donner des indices, des éléments que vous auriez pas perçus en étant tout seul. Donc ça peut influencer aussi l'expérience de jeu. Et enfin, il y a l'enseignant. Donc l'enseignant ou l'animateur qui va être à même de vous donner envie de vous engager dans le jeu. Donc c'est ce qu'on appelle la capacité à animer le jeu, à l'introduire. Et puis ensuite, une fois qu'on a lancé le jeu, il va falloir accompagner, c'est très important. Si une personne est bloquée, s'il ne sait pas comment avancer dans le jeu, est-ce qu'il va être débloqué par d'autres, par l'enseignant, par d'autres apprenants ? Et enfin, il y a la phase de débriefing. Et cette phase de débriefing, elle est cruciale, parce que quand on est dans une expérience de jeu, on peut être focalisé sur les objectifs à atteindre et pas forcément percevoir tous les messages qu'on a cherché à faire passer dans le serious game. Et ce debriefing, ça va être le moment où on va prendre du recul sur l'expérience de jeu, on va s'attarder sur certaines étapes du jeu et faire prendre conscience finalement aux participants de certains apprentissages qui se sont opérés, ou lui faire prendre conscience aussi de certaines erreurs ou de certains manquements dans par exemple la compréhension de ses cours. Et donc on va pouvoir opérer ce qu'on appelle une distanciation. Et finalement, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le jeu ne fait pas tout, mais c'est un moyen, à un moment donné, de vivre une expérience. Et pour que cette expérience soit pleinement prise en compte, il va falloir que l'enseignant fasse le relais et fasse le lien avec les différents cours.
Toujours sur les études qui ont été réalisées justement autour de ces serious games, il y en a une qui a été faite auprès des enseignants de plusieurs pays d'Europe pour savoir au fond quels étaient les principaux obstacles à l'utilisation de ces serious games. Et l'une des choses qui revient visiblement très régulièrement chez ces enseignants, c'est la question de la disponibilité des jeux, alors qu'ils qualifient comme adaptés. Ça manque. Il manque de jeux qu'ils considèrent comme adaptés. Donc il y a un problème d'offre.
Alors, il y a un problème d'offre ou il y a aussi un problème de financement. C'est-à-dire que quand vous voyez un jeu comme, par exemple, Assassin's Creed ou GTA ou d'autres, ce qu'on appelle des blockbusters ou des jeux de catégorie triple A, c'est comme ça qu'on les désigne dans l'industrie vidéoludique, ils bénéficient de plusieurs centaines de millions de dollars pour être fabriqués. Un serious game, on en trouve qui sont fabriqués des fois avec 0 euros, ou alors ils ont au mieux 10, 20, 30, 50 000 euros dans le meilleur des cas. D'autres arrivent à décrocher jusqu'à 1 million d'euros, et quand on trouve un serious game à 1 million d'euros ou 10 maximum, on est très 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 content.
Mais attendez, comment se fait-il que les industriels ne s'intéressent pas à ce secteur ? Je le disais tout à l'heure dans mon introduction, on parle d'un taux de croissance qui est absolument exceptionnel aujourd'hui. Et on prévoit des taux de croissance très importants pour les prochaines années. On nous dit que ce sera un marché de 5 milliards d'euros d'ici 2020. Alors comment se fait-il que les industriels ne s'intéressent pas à ce secteur ?
Alors, les industriels s'y intéressent, mais le problème, c'est la massification. C'est-à-dire que si vous faites un serious game pour une classe ou pour plusieurs classes, très bien, vous pouvez vous dire, multiplié par le nombre d'écoles qui existent dans le monde, un serious game va devenir rentable. Sauf que un enseignant, c'est une personne qui a sa propre pédagogie. Et donc, à travers un serious game, des fois, il va pas s'y retrouver. Il va dire, ah mais non, mais moi, j'aurais pas du tout enseigné les choses telles que le serious game me les amène, donc ça me va pas. Donc en fait, si vous voulez, on s'aperçoit d'une chose, c'est que chaque enseignant a sa pédagogie, mais aussi, chaque individu, finalement, est sensible à une forme de jeu. Donc, ça veut dire que, ou à plusieurs types de jeux. Par exemple, vous allez avoir des enseignants qui adorent jouer au Scrabble. D'autres qui vont préférer les jeux de rôle. D'autres qui vont préférer les jeux de cartes, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'on a des pédagogies différentes en fonction des enseignants, mais aussi des tendances à apprécier plutôt tel ou tel jeu. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, il faut diversifier les types de jeux. Et là, si on ramène ça à une industrie qui voudrait finalement diffuser un serious game, il se heurte très vite à finalement viser des marchés de niche. C'est très compliqué d'avoir un jeu qui va fédérer l'ensemble des enseignants. Mmh, oui. C'est pour ça que une autre approche qui peut être intéressante, c'est de dire, partons de l'idée que finalement on pourrait utiliser n'importe quel jeu existant, et comme ça on touche n'importe quel type d'enseignant, et que cet enseignant va pouvoir finalement détourner des jeux existants pour pouvoir les adapter à sa pédagogie. Et c'est pour ça qu'on peut voir des enseignants qui vont utiliser des jeux comme SimCity, Minecraft ou d'autres types de jeux grand public pour les adapter à leurs besoins. On a des enseignants, par exemple, qui vont amener leurs élèves dans World of Warcraft, créer une ligue et les amener à la découverte de certaines approches pédagogiques.
Oui, comme c'est ce que fait, par exemple, un professeur de Sherbrooke, vous en parlez au Canada, et visiblement, c'est quelque chose qui met les élèves dans un certain état d'effervescence permanent, cette histoire. Moi, je dois dire que je ne connais aucun des jeux que vous évoquez, mais, donc les auditeurs, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, on n'est pas obligé de connaître tous ces jeux. Mais vous parliez de la question de la pédagogie, Julian Alvarez. Il y a évidemment différents courants qui ont structuré les travaux de recherche sur l'apprentissage, et parmi les plus importants sur la période récente, disons sur le 19e, 20e siècle, il y en a trois notamment, le courant fonctionnaliste qui est venu des États-Unis, qui conçoit l'individu pensant comme un être actif, qui mobilise ses forces internes pour répondre aux problèmes qu'il rencontre dans le monde. On a le courant qu'on appelle behavioriste, qui met l'accent, lui, sur l'apprentissage par essai et par erreur. Il y a la psychologie de la forme, qui est une théorie là par laquelle les processus de la perception et de la représentation mentale traite spontanément les phénomènes comme des formes globales, structurées ou non, plutôt que comme l'addition ou la juxtaposition d'éléments simples. Ces différents courants que j'ai pris comme exemple là, est-ce qu'ils sont tous susceptibles de cohabiter avec ce que vous nous annoncez presque comme une révolution du serious game ? Pour le dire autrement, est-ce que l'utilisation des serious games est compatible avec toutes ces différentes théories selon vous ?
Oui, en fait...
C'est un oui enthousiaste.
Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, autant il existe des enseignants qui vont avoir leur propre approche pédagogique, et ils vont pouvoir mobiliser les jeux qu'ils aiment ou avec lesquels ils ont beaucoup d'affinités, autant dans les approches pédagogiques, on peut s'inscrire dans une approche behavioriste ou dans une approche constructiviste, comme on le souhaite. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, il faut aussi opérer de l'autre côté ce qu'on appelle de la pédagogie différenciée des fois. C'est-à-dire qu'on va avoir un public d'apprenants où tous ne vont pas fonctionner de la même manière ou vont pas apprendre de la même manière. Donc ça veut dire que de toute façon, l'enseignant, il doit passer d'une stratégie à une autre, proposer un jeu ou un autre jeu selon les apprenants, ou pas de jeu du tout. Il y a des apprenants qui peuvent dire « je suis désolé, j'aime pas jouer », c'est leur droit aussi. Et je donne toujours le parallèle avec la musique. On pourrait enseigner avec la musique, il y a des enseignants qui le font. Si demain on décrétait qu'on devrait tous passer à la pédagogie basée sur la musique, moi je serais extrêmement malheureux parce que je suis pas du tout mélomane. Donc je peux me mettre à la place des enseignants qui aujourd'hui vous écoutent et se disent « ah ben demain si on m'impose de jouer en classe, je suis extrêmement malheureux parce que je suis pas joueur ou je n'aime pas le jeu ». Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc ça veut dire qu'on peut avoir différents courants pédagogiques, mais il faut aussi se dire qu'on a différents types d'apprenants, différents types d'enseignants, et que donc différentes approches peuvent cohabiter. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas jouer toujours sur le même.
Je vous arrête oui. un instant, parce que là, il y a un point qui me semble important. En vous entendant, je comprends parfaitement que finalement, vous nous dites, ça dépend de l'apprenant, il faut s'adapter à l'apprenant, mais dans des classes, tous les apprenants sont différents. Est-ce qu'il faut nécessairement que l'enseignant s'adapte à ses différents apprenants, ou est-ce que ce sont ses apprenants qui doivent aussi faire un effort d'adaptation, j'allais dire ?
Alors,
c'est une vraie question, c'est un vrai problème, parce que vous n'avez pas des apprenants qui sont tous de la même nature dans des classes.
Exactement. Donc ça veut dire que, en fait, dans les approches aujourd'hui, on essaye de voir comment on peut opérer cette pédagogie différenciée en proposant à différents types d'apprenants quel est le vecteur qui lui semble le plus approprié pour qu'il puisse avancer. Alors, le jeu est un vecteur qui est un moyen d'intéresser certains types d'apprenants. Alors, par exemple, nous, on s'aperçoit sur le terrain que les apprenants qui ont du mal avec le système scolaire classique, traditionnel, et qui sont joueurs, peuvent de temps en temps se retrouver en situation de leadership dans une classe, parce que comme ils connaissent le jeu vidéo, ils sont à même de pouvoir aider les autres. Et ça, c'est formidable pour leur travailler la confiance en soi et les valoriser. Mmh. Et donc, à partir de là, c'est extrêmement important pour eux de se dire, ben oui, dans le cadre d'une classe, dans le cadre d'un enseignement, je peux moi aussi, à un moment donné, me retrouver en situation de leader et de pouvoir aider les autres. Et ça, ça peut les amener plus tard à se dire, ben finalement, comme j'ai vécu cette expérience-là, je suis pas plus bête qu'un autre, c'est simplement que j'ai besoin de trouver le moteur qui me fait avancer.
Julien Alvarez,
et c'est ça, non, voilà. Allez-y.
Peut-être une dernière question avant de passer au jeu, au contenu, disons, plus politique avec nos autres invités. Mais est-ce que vous pensez, je pense que j'ai une idée de la réponse que vous allez me donner, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous pensez que les Serious Games vont s'installer durablement dans les processus d'apprentissage à l'école, ou est-ce que vous diriez qu'on est là dans une sorte d'effet de mode par lequel on expérimente beaucoup de pistes, mais qu'à terme, finalement, la place des Serious Games restera relativement limitée?
Alors, on a évoqué tout à l'heure l'idée que déjà au XVe siècle, avec le mouvement humaniste en Italie, on avait l'expression « serio ludere » qui existait. Montaigne en était par exemple un fervent utilisateur. Donc ça veut dire que c'est pas un effet de mode, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans le temps. Et puis, on peut remonter au temps des Grecs, alors on faisait évidemment pas du jeu vidéo à cette époque-là. Mais on avait d'autres formes de jeux qu'on appelle analogiques. Aujourd'hui, on retrouve des ancêtres de Serious Games sous format numérique dès les années 50. La mouvance actuelle que nous connaissons, elle prend racine, selon les spécialistes, autour de 2002 avec America's Army. Donc on est maintenant 15 ans plus tard. Si on était face à un phénomène de mode, on serait plus là pour en parler.
Eh bien, on en parle justement. Merci Julian Alvarez, vous restez avec nous. On est dans cette semaine consacrée à la fabrique du divertissement. Aujourd'hui, on parle de Serious Game, les jeux sérieux. On va se tourner dans un instant sur Catherine O'Neill pour parler de jeux au contenu un peu plus politique. France Culture, il est 11h27.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va se diriger vers la zone de Woomera, une région désertique, sacrée d'ailleurs pour les aborigènes, en Australie, qui a été utilisée par l'armée australienne à partir de la fin des années 40. Il y a implanté un centre d'essai de tir de missiles. Et puis dans les années 90, le gouvernement a installé plusieurs centres d'accueil pour les étrangers en situation irrégulière.
Le camp de Woomera a été construit au milieu du désert à 5 heures de la ville la plus proche et à la fin d'une route. En été, la température dépasse souvent les 50 degrés.
Beaucoup de réfugiés arrivaient ici avec des poux et la gale, ils étaient déshydratés. Ils avaient des maladies comme la malaria et ils étaient tellement malades qu'en 48 heures, ils s'évanouissaient et vomissaient, en plus de toutes sortes d'autres choses. Nous parlons de 1500 détenus vivant dans ce camp, avec, vous savez, deux machines à laver et 5 toilettes.
No communication being passed to them about what's going on or what's going to happen to them.
Aucune communication ne pouvait passer sur ce qui leur arrivait et il n'y avait pas assez de ressources et d'équipements pour s'occuper d'eux.
Voilà, ces centres ont ouvert leurs portes en 1992 et puis finalement ont été fermés un peu plus de 10 ans plus tard. Catherine O'Neill, rebonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc conceptrice de jeux vidéo d'origine australienne, docteur en game design, et vous avez réalisé un Serious Game, donc un jeu sérieux autour de ce centre de détention. C'était en 2003. C'était vraiment le début des jeux sérieux. Un peu à l'instar du jeu vidéo Half-Life, pour ceux qui connaissent, qui est un jeu de tir en vue subjective dans lequel le joueur doit éliminer des ennemis et dont l'angle de vue simule le champ visuel visuel du personnage incarné. Vous, vous avez repris un peu ce principe en transposant le décor. Le joueur se situe dans ce camp de réfugiés de Woomera et l'objectif est d'en sortir. Dans ce jeu, Catherine O'Neill, il s'agissait évidemment de dénoncer les conditions de détention des réfugiés et le traitement réservé par le gouvernement australien.
Oui, en fait, j'étais la dirigeante, j'étais la directrice d'une équipe. C'était moi et les autres développeurs qui bossaient à l'époque dans l'industrie triple A, les jeux de PlayStation, Xbox, etc. Et à l'époque aussi, je faisais partie d'un groupe de militantes.
Oui, vous aviez déjà préalablement un parcours de militante, vous étiez engagée. Mais à cette époque, les serious games étaient très rares, je le disais. Pourquoi vous avez choisi de faire ce jeu? En quoi est-ce qu'il vous semblait que le jeu vidéo était particulièrement adapté pour traiter un sujet qui reste quand même un sujet d'actualité politique, difficile, complexe, dur?
En fait, comme vous avez déjà indiqué avec cette clip, Woomera Detention Center était un endroit super secret et fermé. Mm. Et pour les journalistes normaux, pour les cinéastes, pour les gens qui voulaient tourner, prendre du vidéo là-dedans, c'était quasi impossible. Mm. Donc, l'idée de recréer cet espace, c'était possible pour nous, les développeurs de jeux, plutôt que les gens qui voulaient faire une émission de télévision.
Et ça permettait de proposer un accès virtuel, oui. Mais un accès à ce centre, à son existence, justement. Puisqu'il était très à l'écart, en réalité, de la société australienne. Escape from Woomera, qui est donc le titre de votre jeu, il n'a pas dépassé le stade de la démo. Pourquoi? Expliquez-nous.
On a reçu un début d'un financement. D'une agence des arts nationale, financement pour les arts.
Qui dépend du ministère de la Culture.
Oui. Mmh. Mais après le scandale, il y avait un scandale après le moment quand on a été financé. Et c'était sous-entendu que jamais encore les agences des arts en Australie financeraient un projet comme le nôtre. Et il fallait plus de finances pour vraiment créer le jeu qu'on voulait créer. Ouais.
Parce que suite à votre jeu et au scandale qu'il a provoqué, le ministre de la Culture a demandé un audit des bourses à la création, justement. Oui. Et depuis, je crois que l'aide à la création dans le secteur des jeux vidéo, il est beaucoup plus restreint, contrôlé, tant qu'il s'agit d'amuser les enfants... Ouais. Éventuellement de créer des emplois, évidemment, ça va. Mais en revanche, dès que ça touche à des questions politiques et en particulier à la question de l'immigration, ça devient impossible.
Souvent les agences de financement, soit c'est des jeux pour faire du fric, pour créer des emplois, comme vous dites. En France, je sais qu'ils ciblent aussi la culture, mais ça, c'est souvent différent. Un jeu comme Escape from Woomera, c'est pas vraiment rentable. C'est pas un jeu qui vont faire beaucoup
c'est
de
l'argent. C'est pas un jeu qui sert à l'école, oui. En l'occurrence, par exemple.
Oui.
Comme
Donc, par exemple, je connais pas le terme en français, mais public broadcasting. On est maintenant ici dans une France Culture, c'est financé par l'État, n'est-ce pas?
Absolument.
Parce que on reconnaît en France que, et d'ailleurs, le BBC par exemple en Angleterre et
les diffuseurs publics.
Oui, que on reconnaît que il faut financer la culture pour des raisons culturelles qui et pas forcément pour les. Il faut créer des cultures qui n'est pas forcément rentable et à mon avis, il faut avoir à peu près la même attitude pour toutes les formes de culture.
Ce centre de détention, il a été fermé en 2003. Est-ce que vous pensez que votre jeu et toutes les polémiques qu'il a créées, qu'il a suscitées, a participé à la fermeture?
Non, pas vraiment. Peut-être que je suis soit je suis modeste. Cynique, soit je suis réaliste.
Soit vous êtes modeste.
Si vous dites...
Merci, mais... Non, mais c'est un jeu dont on avait beaucoup parlé. Hein, que toute la presse australienne avait parlé de ce jeu.
Oui, en fait, oui, c'était la première page du Sydney Morning Herald, par exemple. C'était sur la télévision. C'était un grand débat. Pas seulement sur la question du traitement des réfugiés, qui est un débat qui était déjà déroulé, bien sûr, mais aussi sur le rôle des jeux vidéo dans la culture.
Dans la culture, mais, et dans la politique.
Oui, mais c'est pas vraiment changé le traitement des réfugiés.
Mais on peut dire que même ça s'aggrave. En tout cas, quand on regarde l'actualité, on voit que par exemple le gouvernement actuel a l'air de vouloir serrer encore la vis sur l'immigration, puisque le ministre de l'immigration Peter Dutton vient d'annoncer qu'il laissait jusqu'au 1er octobre à 7 500 demandeurs d'asile pour déposer une demande formelle de protection, faute de quoi ils seront expulsés. Donc on voit que ça s'améliore pas. Au-delà de votre jeu et de façon plus générale sur la question de la politique. Comme message qui pourrait être porté dans les jeux vidéo. Récemment, la Banque mondiale a remporté un prix du jeu vidéo, le prix de l'impact social. C'est Evoque, qui est un jeu pour sensibiliser le public et en particulier les jeunes autour de thématiques comme la pauvreté, les maladies, les conflits. Il avait été développé par une femme qui s'appelle Jen McGonigal, qui est une développeuse de jeux vidéo américaine. Que vous inspire ce jeu et le prix qu'il a remporté?
En fait,
vous en avez fait une parodie, donc.
Oui, Jamie McGonigal n'était pas super content de moi. En fait, comme je vous ai dit, j'étais militante. Je faisais partie du mouvement anti-capitaliste, anti-globalisation capitaliste. J'ai manifesté contre la Banque mondiale. Et quand j'ai vu un jeu qui appliquait ou qui a mis à jour chaque policy de Banque mondiale, par exemple, privatisation de l'eau, les solutions business au lieu des solutions démocratiques. Je me sentais un peu... Oui, je fais pas vraiment partie de ce monde. Et c'est dans ce milieu qui fait un jeu avec des politiques comme ça.
Ça vous a un peu énervé, ça vous a un peu agacé, la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez repris ce jeu pour le détourner et pour en faire une parodie.
Oui, j'ai fait une petite parodie. Ouais.
Julian Alvarez, avant de retrouver un nouvel invité, réaction peut-être sur le cas de ce jeu que vous connaissez. Hein. Je sais que vous l'avez évoqué dans votre thèse, Julian Alvarez.
Oui, alors ce que moi je trouve très très intéressant dans ce témoignage, c'est nous sommes en 2003 quand cette démo est faite et on voit la réaction qui a été suscitée par le jeu en Australie, dans la presse, etc. Donc ce qui prouvait à l'époque déjà que l'utilisation du jeu pouvait avoir un impact significatif en termes du fait de véhiculer des messages. Et ça c'est extrêmement important et c'est ça qui a été un début de prise de conscience pour utiliser le jeu à des fins autres que simplement se divertir. Ça, c'est le premier point. Ce qui est drôle maintenant, c'est que on voit que par jeu vidéo interposé, il est possible maintenant de dialoguer, de véhiculer des idées. Donc ça, c'est le courant de ce qu'on appelle les political games. Effectivement, les jeux qui sont produits soit par des activistes. Alors en Italie, on a aussi le collectif Molendustria qui est très connu, qui produit des jeux, qui dénonce la pédophilie au Vatican, qui dénonce aussi le fait que certaines chaînes de fast-food ruinent la planète au profit du capitalisme, etc. etc. Donc, moi, je dirais que ces jeux-là, ils ont tout intérêt à rentrer dans les écoles et d'être expliqués parce que, effectivement, il faut éveiller nos têtes blondes au message que les jeux peuvent véhiculer. Alors là, on est sur des jeux, on va dire, honnêtes, qui véhiculent un message qui est franc. Mais il existe malheureusement des jeux où les messages sont plus cachés et pas forcément faciles à détecter. Et il y a des cas de jeux comme Énergieville, par exemple, où on présente le jeu comme étant un jeu qui va mettre en avant des valeurs écologiques. Et on invite les apprenants, en fait, à utiliser des énergies vertes. Donc, faire usage de panneaux solaires, faire usage d'éoliennes. Sauf que, on peut pas gagner à ce jeu si on n'utilise pas au départ du pétrole. Et quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que finalement, le commanditaire de ce jeu-là est un pétrolier américain. Donc, ça veut dire que quand on explique ça à des enseignants, certains nous disent, ah, mais écoutez, moi, je sais faire l'éveil à l'esprit critique sur des chansons, avec des chansons, des coupures de presse, des films, etc., mais pas avec des jeux vidéo. Comment on peut être formé à ça? Parce que, effectivement, il y a un réel besoin. Quand on voit que aujourd'hui on a une population en France qui est joueur à 70% et que la plupart sont exposés à des jeux qui font passer des messages et qui sont pas forcément perçus par les utilisateurs, si vous jouez aux Sims par exemple, vous apercevez que plus vous achetez de choses, plus vous avez une belle maison et comme par hasard, plus vous avez d'amis. Donc ça veut dire que le lien est établi entre le nombre d'amis que vous avez et le fait que vous consommiez. Donc les valeurs consuméristes sont prônées à travers ces jeux-là, et c'est pas forcément détecté par les joueurs. Donc il est important qu'il y ait effectivement des enseignements qui soient opérés en ce sens, pour qu'on puisse aujourd'hui faire prendre conscience de ces messages qui sont soit cachés, soit pas forcément vus, et pas uniquement se focaliser sur des messages qui sont honnêtes et visibles.
Ça me fait penser à un autre jeu supposé serious game qui avait provoqué la polémique, qui est Slave Tetris, qui était un jeu néerlandais dans lequel il était question de faire un Tetris avec des esclaves qu'on dispose dans la cale d'un bateau. Il avait été financé là aussi par l'État hollandais. Il n'avait pas provoqué tellement de débats aux Pays-Bas, mais en revanche, sa diffusion aux États-Unis, là, avait provoqué un vrai raz-de-marée de critiques. Et c'est un exemple, évidemment, qui pose la question de savoir si tous les sujets, tous les thèmes sont abordables par le serious game. Il y a peut-être des périodes, des faits historiques qui sont trop lourds pour être évoqués de façon ludique. On va retrouver un nouvel invité.
Vous ne trouverez rien, même en creusant toute une année. Pourquoi? Tout simplement parce que les dollars ne sont pas là-dedans. Fils de... Vous ne croyez tout de même pas que j'aurais confiance en toi. C'est une très jolie somme de 100 000 dollars. Il faut les gagner.
C'est une très jolie somme de 100 000 dollars. Vous avez reconnu évidemment Le Bon, la Brute et le Truand, Sergio Leone, 1966. Pourquoi on parle du Bon, la Brute et le Truand? Parce que vous allez voir que le truand, dans notre cas à nous, eh bien, c'est un comptable. Bonjour Pierre Romera.
Bonjour,
merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, et journaliste en particulier de données, de data journalisme, ce journalisme qui consiste à exploiter de grandes quantités de données, à en proposer une analyse disponible pour le public, et puis vous êtes membre aussi du consortium international pour le journalisme d'investigation. Vous avez, vous, co-développé plusieurs serious games, dont un qui s'intitule Le Bon, la Brute et le Comptable, qui est donc un serious game dont l'objectif est de vous faire découvrir finalement les formes de corruption rencontrées par les élus et les fonctionnaires. Alors le scénario est assez simple, Pierre Romera, vous êtes la directrice de cabinet du maire d'une grande ville, il vous faut adopter la bonne posture, vous équilibrer entre éthique, politique, corruption pour conserver votre emploi. Il va donc falloir que vous détectiez des cartels pour lors d'un appel d'offres, refuser des pots de vin, faire face au déficit de logements sociaux et à ses conséquences. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce jeu? Comment vous est venue cette idée? Et qu'est-ce que vous vouliez montrer au public à travers ce jeu? Et pourquoi la forme du jeu, Pierre Romera?
Alors, c'est assez simple. En fait, pendant plusieurs mois, on a travaillé dans le cadre d'un projet de recherche européen sur justement l'ouverture des données budgétaires et comment est-ce que certaines personnes dans les administrations réussissaient à détourner de l'argent, à tirer profit de leur activité sans forcément que ce soit illégal. Et alors le problème quand on enquête comme ça sur des éléments qui ne sont pas illégaux, c'est qu'il n'y a pas vraiment de scandale. C'est très difficile de présenter ces problèmes dans les administrations, cette corruption, puisqu'elle n'est pas illégale et elle joue sur des mécanismes en fait qui sont mis en place et assez bien rodés. Le problème aussi, c'est que pour parler de ces problèmes-là, eh bien, il faut parler de comptabilité, d'économie, et que ce ne sont pas forcément des sujets très intéressants. C'est pour ça que nous, en fait, on a voulu, au travers de ce jeu, mettre ensemble notre enquête et les résultats de notre enquête pour présenter ces méthodes de corruption qui sont pas très faciles à comprendre, qui sont pas non plus dans l'esprit de tout le monde, et donc on s'est servi de ce jeu-là pour dévoiler comme ça ces mécanismes et encourager nos utilisateurs à les découvrir.
Et puis dévoiler aussi votre travail d'enquête, puisque les différents scénarios ont été tirés en réalité de faits réels. Toujours sur la forme, Pierre Romera, qui est quand même assez attirante, il faut le dire, hein. Ça se présente comme une boîte de dialogue dans laquelle on échange avec la mère, ses bons amis, les entrepreneurs. Il y a des petits encarts qui s'ouvrent pour sensibiliser à des questions spécifiques, la construction de logements sociaux, les partenariats publics-privés. On peut facilement passer 15, 20, 25 minutes sans trop d'efforts. C'est assez ludique. Finalement, la forme de ce jeu permet de sensibiliser à des enjeux très difficiles. La question de la corruption, des contrats publics, etc., qui sont traités régulièrement par des journalistes, mais dans des dossiers, c'est vrai, sérieux et parfois un peu austères. Vous pensez que progressivement, les journalistes vont devoir adapter les contenus à des formats, disons, plus attrayants? Faut repenser la manière de proposer de l'information au public?
Alors évidemment, les journalistes souffrent beaucoup d'un départ de leurs lecteurs vers d'autres médias ou d'autres formes d'information. Et en fait, c'est vrai que ces nouveaux formats, notamment les jeux, permettent d'attirer des nouveaux lecteurs ou alors de rassurer des lecteurs existants et surtout de les garder beaucoup plus longtemps. Et c'est par exemple le cas de ce jeu où les lecteurs restaient plus de 10 minutes en moyenne sur la plateforme, ce qui est assez énorme quand on connaît temps moyen passé par les lecteurs sur des articles.
Non, je dois dire que c'est assez réussi, hein, Pierre Romera. Moi, j'ai passé facilement 15-20 minutes et je suis arrivé au bout, hein, parce que vous pouvez être viré ou vous pouvez perdre votre poste avant. Moi, j'ai réussi à rester au bout. Pierre Romera, ce dont on se rend compte aussi, c'est que quand on respecte parfaitement l'éthique, on prend des risques politique considérable. Il y a certaines décisions, comme celle par exemple de refuser de payer une campagne pour la réélection de la maire avec l'argent de la municipalité, qui peut vous coûter votre poste de DIRCAB. La leçon finalement qu'on tire de votre jeu, c'est de dire qu'en réalité, si vous voulez durer en politique, gravir les échelons, vous n'aurez d'autre choix que de parfois faire l'impasse sur la morale et l'éthique. C'est quand même un terrible constat. Vous pensez vraiment que pour conduire durablement une municipalité, il est impératif d'accepter quelques accommodements avec l'éthique et le droit ?
Alors heureusement non, évidemment on peut exercer son métier dans une mairie, le faire de manière tout à fait légale et éthique. Néanmoins, évidemment, ce jeu était assez satirique. On voulait vraiment mettre le doigt sur des comportements néfastes pour ces mairies-là. Et c'est pour ça que effectivement, on a enchaîné un petit peu les clichés et on a mis en péril la partie du joueur s'il ne passait pas du côté obscur.
Et comment vous pensez qu'il faudrait s'y prendre justement pour modifier ce qui semble être un modèle, un système que vous présentez dans ce jeu qui favorise la corruption généralisée? Il faut s'inspirer d'initiatives d'autres pays, et on pense notamment aux pays nordiques, on les prend souvent en exemple.
Alors c'est vrai que nous, on ne propose pas forcément de solution à travers ce jeu, mais il y a une chose qu'on a observée ces dernières années en faisant du journalisme de données, c'est que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus, s'ils ne sont pas mesurés. Et en fait, nous, on a voulu permettre aux gens de comprendre et de mesurer ces problèmes-là au sein de leur propre administration pour les dénoncer. Alors, on ne propose pas de solution, on ne propose pas de transparence supplémentaire. On essaie juste de permettre à nos lecteurs de comprendre mieux le problème pour éventuellement qu'ils puissent intervenir de sa propre initiative.
Encore une petite question, Pierre Romera, puis je me tournerai vers Julien Navarrez pour le faire réagir. Mais comment le public a réagi à votre jeu? Que vous disent les personnes qui l'ont essayé? Donc visiblement, ils ont tous plutôt en général passé pas mal de temps justement sur cette plateforme. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les retours?
Alors globalement, c'est assez marrant puisqu'on a vraiment un scénario qui revient tout le temps. C'est les joueurs qui essayent de jouer de manière assez naïve en essayant d'être gentil, de ne pas être trop compromis. Et puis la plupart d'entre eux perdent parce que c'est comme ça qu'on a conçu le jeu. Et ils ont tous fait au moins deux parties où ils ont donc joué de manière un peu plus malicieuse en essayant de détourner donc de l'argent et en suivant des conseils critiquables des différents personnages dans le jeu. Et donc c'est assez marrant de voir que très rapidement des joueurs qui avaient envie de bien se comporter ont retourné leur veste et se sont mis à jouer le rôle du méchant juste pour réussir.
Et puisqu'il est beaucoup question d'argent dans ce jeu, peut-être un mot sur le mode de financement de ce jeu. Comment vous l'avez développé? Avec quel argent?
Alors c'est assez simple, hein. Ce jeu, en fait, on l'a fait dans le cadre d'un projet de recherche européen qui finançait notre société sur plusieurs mois pour enquêter sur l'ouverture des données budgétaires publiques. C'est vrai qu'il est assez, c'est un jeu assez important. Ça coûte cher, hein, de faire un jeu comme, enfin, ça nécessite beaucoup de ressources. Donc nous, on a un petit peu aussi contribué avec les ressources de notre petite entreprise pour le faire vivre au-delà du financement qu'on avait eu. Mmh.
Julien Alvarez, toujours en duplex avec nous. Réaction autour de cet exemple de jeu, Le Bon, la Brute et le Comptable, qui met le doigt sur un certain nombre de failles de nos démocraties et de leur fonctionnement, Pierre Romero. Julien Alvarez, pardon.
Oui, donc en fait, effectivement, j'ai également joué au jeu et je m'y suis pris. Alors, j'ai joué une première partie, j'ai tenu 20 ans, donc je suis content. Je sais pas si c'était le bout. Et puis la deuxième fois, j'ai voulu jouer manière très entruandant un maximum. Là, j'ai tenu 2 ans, donc ça m'a rassuré. ce qui est très intéressant avec les jeux, c'est que on peut avoir deux philosophies. On peut dire il y a une façon de, il y a une fin et un attendu, et finalement on va conformer le joueur finalement à un message, à une attente précise. Ou alors on peut avoir aussi ce qu'on appelle des jeux épistémiques, c'est-à-dire des jeux dans lesquels on n'a pas forcément une bonne solution pour gagner. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'envisager d'utiliser le vivier d'internautes et de proposer des jeux où on peut poser de véritables problèmes de société. Par exemple, quand on a eu au large de la Somalie des bateaux qui étaient raisonnés par des pirates somaliens qui étaient poussés par la famine, en fait on s'apercevait que c'était pas des personnes qui étaient forcément aguerries à ce type de procédés. Ils étaient c'était des fermiers, ils avaient pris des armes et ils se disaient qu'ils voyaient passer des richesses au large et ils essayaient de voir comment ils pouvaient s'en sortir. Donc en fait l'armée américaine a mis en place un jeu qui s'appelle Mowgli, en disant, ben voilà, on s'adresse à vous les internautes, comment on peut essayer de solutionner ce problème-là, sachant qu'on va pas faire intervenir les militaires à chaque fois, c'est pas forcément la solution. Il faut essayer de trouver des solutions qui vont arranger les différents partis. Et donc, à partir de là, c'est instauré donc des dialogues entre les internautes pour essayer de solutionner le problème à travers un jeu. Donc on voit que le jeu, finalement, peut servir à de la médiation, peut servir à dénoncer des choses, en proposant soit une solution fermée, ce qui est peut-être pas très intéressant, soit des solutions hybrides qui peuvent être ouvertes, semi-ouvertes.
Et des jeux aussi, pardon de vous couper, mais on arrive presque au terme de cette émission, des jeux sûr. Qui portent des messages politiques. En fait, le jeu vidéo, il dépasse largement le domaine de l'éducation qu'on a évoqué ensemble, Julien Alvarez. Il envahit tous les espaces, y compris celui de la politique. Il devient une nouvelle forme de militantisme, ou plutôt, le jeu vidéo devient un nouveau support du militantisme politique. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous ce matin. Julien Alvarez, je rappellerai votre ouvrage « Apprendre avec les Serious Games ». Catherine O'Neill, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir fait l'effort aussi de parler en français. Vous avez un excellent français.
Merci pour votre patience et la patience de vos auditeurs.
C'était parfait. Un grand merci également à Pierre Romera qui est avec nous. Je rappellerai l'un de ces Serious Games, Le Bon, la Brute et le Comptable. Vous faites ça sur Internet, vous retrouvez assez rapidement pour retrouver cette plateforme et jouer à ce jeu. Tout de suite sur France Culture, Le Monde des Idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous nous le disiez hier pour tenter d'expliquer la spécificité du nationalisme allemand. Norbert Elias, dont vous nous parlez depuis le début de cette semaine et dont Gallimard vient de publier l'ultime essai intitulé Les Allemands, eh bien Elias se tourne vers l'histoire. Il tire un premier fil qui est celui des sens successifs pris par le mot Kultur. Le second, disiez-vous, c'est celui du mot italien virtu.
Et oui, c'est l'un des mots clés de la pensée machiavélienne. L'auteur du Prince l'oppose à la fortuna, la chance, le hasard, le destin. Le politique vertueux est celui qui sait saisir la chance que présente une conjoncture pour résister au cours des choses et l'infléchir dans le sens qu'il a décidé. Chez Machiavel, la vertu, virtu, est celle des héros de la République romaine. Elle renvoie au courage, à la vaillance, à l'énergie. certainement pas à la probité, à la tempérance ni à la justice. Or, pour Norbert Elias, ce mot « virtus » résume la conception que se faisaient les rois et princes des temps modernes des relations internationales. Ce qu'on appelle la politique de puissance consiste à tenter d'utiliser les faiblesses de ses adversaires pour en obtenir des avantages. Pas étonnant, relève justement Elias, que dans la plupart des États européens, les diplomates aient été recrutés parmi la noblesse. C'était la conception guerrière de l'aristocratie qui imprégnait la conduite des affaires étrangères. Méfiance, peur réciproque, ruse, menace, violence au service des rapports de force. La noblesse dominait également les armées, chargées de relayer en cas de nécessité l'activité des diplomates, et ce petit monde partageait les mêmes valeurs, le même code de l'honneur en particulier, qui voulait qu'on respectât l'adversaire, y compris sur le champ de bataille. Mais il s'est produit deux phénomènes dans la deuxième moitié du XIXe siècle en Allemagne. D'une part, des membres de la bourgeoisie ont accédé aux bureaux, ils sont devenus fonctionnaires. Intégrés aux appareils d'État, ils ont découvert combien la morale, qui était celle de leur classe sociale, pour faire court, celle de Kant, entrait en profonde contradiction avec la manière dont étaient menées les affaires diplomatiques et militaires. Eux avaient justement adopté la moralité kantienne en réaction au code de l'honneur de la noblesse. Cette moralité était conçue comme dictée par la conscience personnelle et non comme imposée par le regard des pairs. Elle était présentée comme universelle, valable pour toutes les classes et toutes les nations. Elle excluait la violence et elle se présentait en outre comme non historiquement datée en tant qu'a priori métaphysique.
Le conflit entre le kantisme de ces bourgeois et le genre de talent exigé dans la diplomatie, et plus largement dans les affaires de l'État, devait entrer en collusion. Et qui en sortit vainqueur, Brice ?
Et on l'aura deviné, le cynisme dit machiavélien. Mais en subissant une très profonde modification. Modification qui est à l'origine du nationalisme allemand. Car le nationalisme implique, parmi toutes les classes qui composent une nation, un sentiment d'interdépendance. Il était inconcevable dans la société d'État, qui était encore l'Allemagne avant 1870. Il a fallu d'une part que les écarts entre les classes se comblent en partie, qu'une certaine démocratisation sociale, non pas politique, se produise, pour que bourgeoisie, aristocrates et classes populaires en viennent à communier dans le même sentiment de la grandeur allemande. La bourgeoisie, on l'a vu, en se convertissant à la virtus aristocratique et en faisant de l'État sa valeur centrale, et dans cette affaire, la lecture de Nietzsche joue un rôle capital et désastreux puisqu'il prétend démasquer l'humanisme comme une imposture et un aveu de faiblesse. L'aristocratie, en comprenant que dans un État moderne, on sert les intérêts de sa nation et non plus ceux de son prince. Machiavel écrivait que le prince songe uniquement à conserver sa vie et son État. S'il y réussit, tous les moyens qu'il aura employés seront jugés honorables et loués de tout le monde. Dorénavant, c'est au nom de la nation que tous les moyens seront jugés bons et honorables. Jusqu'à la Révolution en France et beaucoup plus tard en Allemagne, le sentiment national était peu partagé par les nobles, en tout cas dans le sens de ce que nous appelons aujourd'hui le nationalisme. Les aristocraties européennes étaient liées entre elles par des liens familiaux qui ignoraient les frontières nationales. Elles constituaient par-delà les appartenances nationales une même classe, partageant les mêmes modes de vie et les mêmes valeurs. Il a fallu que leur allégeance fût transférée de la famille régnante à l'État pour qu'elles aussi communient dans le sentiment de la supériorité de leur nation sur toutes les autres. Ainsi, la classe dirigeante, l'aristocratie, se convertissait au nationalisme moderne. Elle faisait son entrée à reculons dans cette ère des masses qu'elle redoutait tant. Et cependant, des pans entiers des anciens codes guerriers de la noblesse passaient dans les classes moyennes et même populaires. Elles partageaient le code d'honneur des aristocrates et leur manie de la pureté de leur sang en le transposant au peuple allemand tout entier. L'unification nationale réalisée en 1870 donne naissance au plus farouche des nationalismes européens. En réalité, la bourgeoisie allemande, fait observer Elias, ne se contenta pas de s'aligner sur les valeurs aristocratiques. À la veille de la guerre de 14, elle les avait portées à incandescence, en magnifiant le recours à la violence en politique extérieure. Puis, dans l'exercice même de la politique intérieure, d'où les nombreux assassinats qui eurent lieu durant la République de Weimar.
Merci beaucoup Brice Couturier. Je rappellerai donc pour nos auditeurs ce dernier livre de Norbert Elias, traduit et publié chez Gallimard, intitulé « Les Allemands » poursuivra demain. Merci beaucoup Brice, à demain.